troisième partie. Renegade. Chapitre 10. J'avais déjà visité la Maison Blanche plusieurs fois en tant que sénateur, mais je n'étais encore jamais entré dans le bureau ovale avant d'être élu président. La pièce est plus petite qu'on pourrait l'imaginer. 11 mètres pour l'axe le plus long, 9 mètres pour l'axe le plus court. Mais le plafond est haut et majestueux, et l'aspect général correspond bien aux photos et autres images d'actualité bien connues. Il y a le portrait de Washington au-dessus de la tablette de cheminée recouverte de lierre, et les deux sièges à haut dossier flanqués de sofas, où le président s'installe avec le vice-président ou des dignitaires étrangers de passage. Deux portes s'insèrent harmonieusement dans les murs légèrement incurvés, l'une donnant à l'extérieur sur le couloir, l'autre sur l'ovale extérieur, pour les assistants personnels du président. Et une troisième ouvre sur le petit bureau intérieur et la salle à manger réservée à l'usage du président. Il y a les bustes de chefs d'État morts de longue date et le fameux cow-boy en bronze de Remington, l'antique horloge comtoise et les niches bibliothèques. L'épais tapis ovale orné au centre d'un aigle austère et le Resolute Desk, bureau du président. Offert par la reine Victoria en 1880, richement sculpté dans la coque d'un navire britannique que l'équipage d'un baleinier américain avait secouru, plein de tiroirs et de recoins cachés, avec un panneau central qui s'ouvre, le délice de tout enfant ayant la chance de passer en dessous en rampant. Il y a une chose que l'appareil photo ne parvient pas à capturer dans le bureau ovale, c'est la lumière. La pièce est baignée de lumière. Lorsque le temps est clair, elle s'engouffre par les immenses fenêtres orientées est et sud, donnant à chaque objet un éclat doré, dont le grain s'affine puis se constelle de taches à mesure que s'estompe le soleil de fin d'après-midi. Quand il ne fait pas beau et que la pelouse sud est nimbée de pluie, de neige ou d'un rare brouillard matinal, la pièce se pare d'une teinte légèrement plus bleue, sans pour autant s'assombrir. La lumière naturelle, plus faible, compensée par les lampes intérieures dissimulées dans une corniche à console, se reflétant au plafond et au mur. Les lumières ne sont jamais éteintes, si bien que, même en pleine nuit, le bureau ovale reste luminescent et brille dans l'obscurité comme la lentille ronde d'un phare. J'ai passé une bonne partie des 8 années qui allaient suivre dans cette pièce, à écouter avec gravité des rapports de renseignement, à accueillir des chefs d'État, à amadouer des élus, à batailler avec des alliés et des adversaires, à poser pour des photos avec des milliers de visiteurs. Avec mon staff, j'ai ri, pesté et plus d'une fois retenu mes larmes. Je me suis senti suffisamment à mon aise pour poser les pieds sur le bureau, me rouler par terre avec un enfant ou piquer un somme sur le canapé. Parfois, j'ai rêvé de sortir par la porte est, descendre l'allée, passer le corps de garde et les grilles en fer forgé pour m'enfoncer dans les rues bondées et retrouver ma vie de jadis. Mais je ne me suis jamais totalement départi d'un sentiment de révérence chaque fois que je pénétrais dans le bureau ovale. Le sentiment d'être entré non pas dans un bureau, mais dans un sanctuaire de la démocratie. Jour après jour, sa lumière m'a encouragé et fortifié, me rappelant le privilège de mes fardeaux et de mes devoirs. Ma première visite au bureau ovale a eu lieu quelques jours à peine après l'élection, lorsque, conformément à une longue tradition, les Bush nous ont invités, Michel et moi, pour nous faire découvrir ce qui serait bientôt notre maison. Dans un véhicule du Secret Service, nous avons longé l'arc de cercle bordant la pelouse sud jusqu'à l'entrée de la Maison Blanche, tâchant tous deux de nous faire à l'idée que, dans moins de 3 mois, nous y emménagerions. C'était une journée ensoleillée. Il faisait chaud, le feuillage des arbres était encore intact, la roseraie débordait de fleurs. Nous apprécions d'autant plus l'automne prolongé de Washington qu'à Chicago, le temps était vite devenu froid et sombre. Un vent arctique dépouillait les arbres, comme si la météo inhabituellement clémente du soir de l'élection n'avait été qu'un élément du décor, vite démonté une fois la cérémonie terminée. Le président et la First Lady Laura Bush nous ont accueillis au portique sud, et après les inévitables saluts aux journalistes, le président Bush et moi nous sommes dirigés vers le bureau ovale pendant que Michel se joignait à Madame Bush pour prendre le thé à la résidence. Après quelques photos de plus et une offre de rafraîchissement de la part d'un jeune valet, le président m'a invité à m'asseoir. « Alors » m'a-t-il demandé. « Qu'est-ce que ça fait ?»« Ça fait beaucoup », ai-je dit. « Je suis sûr que vous vous en souvenez. » « Ouais, parfaitement, comme si c'était hier », a-t-il confirmé en hochant vigoureusement la tête. « Je vais vous dire une chose, vous allez vous embarquer dans une drôle d'aventure, quelque chose de vraiment unique. Il faut juste penser chaque jour à en profiter. » Était-ce par respect pour l'institution? Était-ce les leçons que lui avait enseignées son père? Les mauvais souvenirs de sa propre transition? Certaines rumeurs prétendaient que des membres de l'équipe Clinton avaient retiré la touche W de tous les ordinateurs de la Maison Blanche au moment de partir. Ou était-ce par simple savoir-vivre? Toujours est-il que le président Bush ferait tout son possible durant les 11 semaines séparant mon élection et la fin de son mandat pour que les choses se passent en douceur. Chaque service de la Maison Blanche avait fourni à mon équipe des guides pratiques détaillés. Les membres de son staff s'étaient rendus disponibles pour rencontrer leur successeur, répondre aux questions, et avaient même accepté d'être suivis dans l'exercice de leurs fonctions pour que les nouveaux apprennent le métier. Ces deux filles, Barbara et Jenna, qui étaient alors de jeunes adultes, ont aménagé leur emploi du temps pour faire découvrir à Malia et à Sacha les côtés fun de la Maison Blanche. Je me suis promis que le moment venu, j'en ferai de même avec mon successeur. Le président et moi avons abordé un large éventail de sujets lors de cette première visite. L'économie et l'Irak, la presse et le Congrès, lui ne démentant jamais sa réputation d'homme jovial et un brin agité. Il a ensuite porté des jugements sans détour sur quelques hauts responsables politiques étrangers, m'a prévenu que ce seraient des gens de mon propre parti qui finiraient par me causer les plus gros soucis, et a élégamment accepté d'organiser un déjeuner avec tous les anciens présidents vivants avant l'investiture. J'étais conscient qu'il y avait nécessairement des limites à la franchise d'un président s'entretenant avec son successeur, surtout lorsque ce dernier avait à ce point critiqué son bilan. J'étais également conscient que, en dépit de la bonne humeur apparente du président Bush, ma présence dans le bureau qu'il allait bientôt libérer devait susciter chez lui des émotions contradictoires. J'ai suivi son exemple en évitant de trop entrer dans les détails. Dans l'ensemble, j'ai surtout écouté. À un moment toutefois, il a dit quelque chose qui m'a étonné. Nous évoquions la crise financière et les initiatives du secrétaire Paulson pour structurer le plan de sauvetage des banques, dès lors que le TARP avait été adopté au Congrès. « La bonne nouvelle, Barack, a-t-il dit, c'est que d'ici à ce que vous entriez en fonction, nous aurons réglé les problèmes les plus épineux. Vous pourrez repartir sur de bonnes bases. » Sur le coup, j'en suis resté sans voix. J'avais régulièrement discuté avec Paulson, et je savais que des faillites bancaires en cascade et une crise mondiale étaient encore à envisager très sérieusement. En regardant le président, j'ai imaginé tous les espoirs et toutes les convictions qu'il avait dû porter la première fois qu'il avait pénétré dans le bureau ovale en tant que président nouvellement élu. Pas moins ébloui par son éclat, pas moins déterminé à changer les choses pour œuvrer à un monde meilleur, pas moins persuadé que l'histoire jugerait sa présidence comme une réussite. « Il vous a fallu beaucoup de courage pour faire passer le TARP, ai-je fini par déclarer, pour aller à l'encontre de l'opinion publique et de votre propre parti pour le bien du pays. » Cela au moins, c'était vrai. Je ne voyais pas l'intérêt d'en dire davantage. Quand nous sommes revenus à Chicago, nos vies ont brusquement changé. À la maison, les choses ne paraissaient pas si différentes. Le petit déjeuner, préparer les filles pour l'école, répondre à quelques coups de fil et discuter avec les membres de l'équipe. Mais dès l'instant où l'un d'entre nous franchissait le seuil de la porte d'entrée, c'était un nouveau monde. Des hordes de photographes et de caméramens étaient stationnés au coin de la rue, derrière les barrières de béton récemment érigées. Les équipes du Secret Service, chargées de débusquer d'éventuels tireurs isolés, étaient de faction, vêtues de noir. C'était la croix et la bannière pour rendre une simple visite à Marty et à Anita, à quelques rues seulement. Et il était désormais hors de question d'aller à mon ancienne salle de sport. En rejoignant le centre-ville où était établi notre bureau de transition, je me suis rendu compte que les rues vides qui avaient frappé Malia le soir de l'élection étaient devenues la nouvelle norme. Toutes mes entrées et sorties des bâtiments s'effectuaient par des quais de chargement et des ascenseurs de service, sans personne alentour, à l'exception de quelques agents chargés de la sécurité. J'avais dorénavant le sentiment d'habiter dans ma propre ville fantôme mobile. J'ai passé mes après-midi à former un gouvernement. Un nouveau gouvernement occasionne moins de turnover que ce qu'imaginent la plupart des gens. Sur plus de 3 millions de fonctionnaires, civils et militaires employés par l'État fédéral, seuls quelques milliers constituent le personnel politique, nommé à la discrétion du président. Parmi eux, le président ou la présidente n'a de contact significatif qu'avec moins d'une centaine de hauts fonctionnaires et de conseillers. En tant que président, je pouvais exprimer une vision et fixer un cap pour le pays, promouvoir une culture organisationnelle saine et établir des lignes claires de responsabilité et de mesures afin de veiller à la transparence. C'était moi qui prendrais la décision finale concernant les questions ayant été portées à mon attention et qui expliquerais ces décisions au pays dans son ensemble. Mais pour accomplir tout cela, je dépendrais d'une poignée de personnes qui me serviraient d'yeux, d'oreilles, de mains et de pieds. ceux qui deviendraient mes directeurs, responsables de projet, conseillers, analystes, organisateurs, chefs d'équipe, porte-voix, conciliateurs, solutionneurs de problèmes, fusibles face aux critiques, médiateurs, caisses de résonance, critiques constructifs et loyaux soldats. Il était donc crucial que ces premières nominations soient judicieuses, à commencer par la personne qui serait mon directeur de cabinet. Malheureusement, la réponse initiale de celui que j'avais pressenti pour ce poste ne fut pas exactement enthousiaste. Jamais de ma putain de vie. Il s'agissait de Rahm Emanuel, ex-collecteur de fonds de Richard M. Daley et enfant terrible du gouvernement Clinton, désormais élu à la Chambre des représentants de la circonscription du Northside de Chicago et instigateur de la vague démocrate de 2006 qui avait repris la Chambre des représentants. De petite taille, svelte, d'une beauté ténébreuse, immensément ambitieux et débordant d'une énergie électrique, Rahm était plus intelligent que la plupart de ses collègues au Congrès et pas du genre à s'en cacher. Il était également drôle, sensible, anxieux, loyal et notoirement grossier. Lors d'un dîner en son honneur, quelques années plus tôt, je l'avais chambré publiquement en expliquant que la perte de son majeur, tranché dans un coupe-viande quand il était adolescent, l'avait privé de son principal moyen d'expression. « Écoutez, je suis très honoré que vous pensiez à moi pour le poste », m'a dit Rahm lorsque je l'ai contacté un mois avant l'élection. « Je ferai tout mon possible pour vous aider, mais je suis heureux comme ça. Ma femme et mes mômes sont heureux, et j'en sais trop pour croire que la Maison-Blanche permet de préserver un équilibre familial. Et puis, je suis convaincu que vous pouvez trouver de meilleurs candidats que moi. » Je ne pouvais pas affirmer à Rahm qu'en acceptant mon offre, il signerait pour une partie de plaisir. À la Maison-Blanche, dans sa version moderne, le directeur de cabinet était un quarterback au jour le jour, gardant l'extrémité du tunnel par lequel devait d'abord passer tout problème auquel le président était confronté. Peu de personnes au sein du gouvernement, y compris le président, travaillaient autant que lui, en étant à ce point soumis à une incessante pression. Mais Rahm se trompait en prétendant que je pouvais trouver mieux. Après 2 années épuisantes de campagne électorale, Plouffe m'avait déjà annoncé qu'il n'entrerait pas au gouvernement, en partie parce que sa femme Olivia avait accouché 3 jours après l'élection. Mon directeur de cabinet au Sénat, Pete Rouse, et l'ancien directeur du cabinet de Clinton, John Podesta, qui avaient tous deux bien voulu aider à gérer notre équipe de transition, s'étaient retirés de la course. Certes, Axe, Gibbs et Valérie accepteraient de hautes fonctions à la Maison-Blanche, mais aucun ne possédait la combinaison d'aptitudes et d'expérience dont j'avais besoin pour le poste de directeur de cabinet. Rahm, en revanche, maîtrisait les rouages. Il connaissait la politique, le Congrès, la Maison-Blanche, ainsi que les marchés financiers pour avoir travaillé un temps à Wall Street. Son impertinence et son impatience en hérissaient certains, comme je ne tarderai pas à l'apprendre. Son empressement à marquer des points le conduisait parfois à se soucier moins de la substance d'un accord que du fait même d'avoir obtenu cet accord. Mais avec la crise économique à affronter et une marge de manœuvre que je devinais étroite pour faire passer les mesures qui s'imposaient auprès d'un Congrès à majorité démocrate, j'étais convaincu que son style rentre-dedans était exactement ce qu'il me fallait. Au cours des derniers jours avant l'élection, j'avais fini par avoir Rahm à l'usure, en appelant à son ego, mais aussi à la rectitude morale et à l'authentique patriotisme qu'il dissimulait derrière ses grands airs. « Jamais de notre vivant nous n'avons eu à affronter une crise d'une telle ampleur », lui ai-je jeté à la figure. « Et toi, tu vas vraiment choisir de rester sur la touche ?» Axe et Plouffe, qui avaient tous deux eu le loisir de voir Rahm en action, furent ravis qu'il accepte le poste. Cependant, tous les sympathisants n'étaient pas aussi enthousiastes. Rahm n'avait-il pas soutenu Hillary, on pestait certains. N'était-il pas l'archétype de la bonne vieille triangulation, fréquentant Davos, dorlotant Wall Street, l'œil rivé sur Washington, la version obsessionnellement centriste du Parti démocrate contre laquelle nous avions fait campagne? Comment pouvez-vous lui faire confiance? Autant de variantes d'une question qui ne cesserait de revenir dans les mois à venir. Quel type de président avais-je l'intention d'être? J'avais bien tiré mon épingle du jeu durant la campagne, m'attirant les soutiens d'indépendants et même de certains républicains modérés, en promettant d'instaurer une gouvernance bipartite et de mettre fin à la politique de la terre brûlée, tout en conservant l'enthousiasme de mon aile gauche. J'avais procédé non pas en disant aux uns et aux autres ce qu'ils avaient envie d'entendre, mais en affirmant ce qui me semblait être la vérité. À savoir que, pour mettre en place des politiques progressistes telles que l'assurance maladie universelle ou la réforme de l'immigration, il n'était pas seulement possible, mais nécessaire, d'éviter de raisonner en termes idéologiques, d'accorder la priorité à ce qui fonctionnait et d'écouter avec respect ce que l'autre camp avait à dire. Les électeurs avaient entendu mon message, parce qu'il était différent de ce qu'ils avaient entendu jusqu'alors, et qu'ils avaient soif de changement. Parce que notre campagne n'avait pas été tributaire des habituels groupes d'intérêts et autres éminences grises qui auraient pu m'obliger à appliquer une stricte orthodoxie de parti. Parce que j'étais nouveau et inattendu, une toile vierge sur laquelle nos soutiens à travers tout le spectre idéologique pouvaient projeter leur propre vision du changement. À partir du moment où j'ai procédé aux premières nominations, toutefois, les différentes attentes au sein de ma coalition ont commencé à se manifester. Après tout, chaque personne que j'avais désignée pour un poste au gouvernement arrivait avec sa propre histoire, sa trajectoire établie, ses partisans et ses détracteurs. Pour les initiés, en tout cas, les politiciens, les agents et les journalistes dont la mission consistait à lire dans le marc de café, chaque désignation en disait long sur mes véritables intentions politiques, était la preuve de mon penchant à droite ou à gauche, de ma volonté de rompre avec le passé ou de me contenter de poursuivre dans la lignée de mes prédécesseurs. Les choix de personnes reflétaient des choix stratégiques, et à chaque choix, les risques de désillusion augmentaient.